Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Oh, c'est quoi tout ça, Lila?
Quoi, ça t'intéresse, les bestioles?
Oh, mais ça m'intéresse à mort!
Fais gaffe quand même, hein!
T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Je te ramène à la maison. Let's go!
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée au cinéma français qui, depuis quelques années, voit émerger une nouvelle génération dont la production est passionnante. Nous reviendrons, entre autres, sur Tropique d'Edouard Salier, sorti chez Réseau Film et distribué par ESC, sur Gueule Noire de Mathieu Turie, hein, également sorti chez ESC, et Vermine de Sébastien Vanisek, sorti chez ESC, mais on va aborder aussi plein d'autres films hein, qui n'ont pas forcément d'actualité en termes de sortie Blu-ray DVD, mais dont on avait envie de vous parler. En termes de films français bien singuliers, bien originaux, il y en a un qui se pose là, c'est l'ami Bertrand Mandicot. Alors Bertrand Mandicot, pour les vieux auditeurs de Culture Prohibée, alors qu'il ne faisait que des courts-métrages et qu'en peu de journalistes parlaient de son travail, on l'avait invité dans l'émission, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors d'une spéciale court-métrage, il y a très 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 longtemps. Voilà. Eh bien, là, notre ami Thomas Roland a pu aller à la rencontre de deux des actrices qui jouent dans Conan, son dernier film, son dernier méfait. Hein, donc Sandra Parfait et Nathalie Richard, qu'on écoutera dans l'émission. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet et l'équipe du FIFAM pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Depuis maintenant quelques années, 2-3 ans, hein, on constate que de nombreux auteurs hexagonaux s'emparent de différents genres tout en construisant une œuvre, ma foi, assez cohérente. Je trouve même personnellement hein, qu'en 2023, c'est en France, pays où on a enfin essayé d'arrêter de faire des films comme les Américains, voilà, qu'on a la production fantastique la plus stimulante, la plus intéressante, à l'image de jeunes réalisateurs qui percent même sur la scène internationale. À l'image, je peux surparler par exemple de Julia Ducournau, hein, qui aujourd'hui voilà, a tourné avec Shyamalan, tout ça, enfin qui sont vraiment des. On a toute une génération là qui arrive. Alors Thomas avait parlé dans l'émission Palmarès du Grand Paris de Martin Jova, mais alors. Il y a quelques réalisateurs déjà aguerris qui ont construit une œuvre qui est de plus en plus passionnante, comme La Tour de Guillaume Niclou. On avait aussi, il y a quelques années, rencontré Thomas Salvador pour Vincent Napa d'Écaille. Là, il est revenu avec La Montagne, un film très particulier. Alors, dans les anciens, il y a aussi Herwig de Lucie Ladzi-Halilovic, qui était aussi venu dans l'émission il y a quelques années pour nous parler de son précédent film. Et on se rend compte que petit à petit, il y a une vraie... Alors, je sais aussi que l'année dernière, le CNC avait lancé une subvention pour... le thème, c'était le fantastique autour des scénarios. Donc, ça explique aussi qu'il y a eu pas mal de films fantastiques produits. Mais on se rend compte quand même que il y a eu une production... Alors, certes, peut-être induite par ça, mais elle est vraiment qualitative. Et même si on sort du fantastique, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tout, dans les anciens, il y a des gens qui ont fait des progrès fulgurants. Hein. Je pense au Pharaon de Xavier Jean, ce qui est quand même assez étonnant, qui ressemble plus du tout au film de ses débuts, qui était quand même assez calamiteux. Là, on a vraiment un film d'action qui en remonte à beaucoup de films et qui est d'un niveau assez, assez impressionnant. Je pense aussi au Rascal, qui est un film de Jimmy Laporal Trésor sur les gangs dans les années 80 à Paris, mais aussi sur les skins à l'époque, le fascisme. Un film vraiment très, très intéressant et très, très bien mis en scène. Enfin, il y a plein de films dont on va essayer de vous parler aujourd'hui. Alors, vu qu'on a une grande partie de l'émission qui est consacrée au Conan de Bertrand Mandico, on va essayer de passer en revue quelques films avant de laisser Sandra Parfait et Nathalie Richard, les deux actrices du film de Mandico, nous dire quelques mots. Toi, Damien, je sais que tu es arrivé avec un film d'animation qui est un des meilleurs films aussi que j'ai vu parce qu'il y a des films qu'on n'a pas mis dans notre émission Palmarès, il faut le savoir, parce que je savais qu'on allait en parler dans cette émission. Et le film dont tu vas parler là est un film que j'aurais peut-être bien mis dans mon émission Palmarès. C'est le premier film pour le cinéma, mais Jérémy Perrin n'est pas un inconnu pour les amateurs d'animation. Et ça s'appelle donc Mars Express, donc c'est signé Jérémy Perrin.
Un de mes films préférés de 2023, donc... C'est Mars Express de Jérémy Perrin. Donc, comme tu l'as dit, il a fait ses armes avant tout en série avec l'adaptation de The Last Man sur France Télévisions, qui est une série très particulière que je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore vue. Et la particularité de Mars Express, donc, c'est un film d'animation.
Dis-le, c'est une adaptation de Bastien Vivès, parce que c'est un nom qu'on n'a plus vraiment le droit de citer, et qui est à la base, la BD de Bastien Vivès est assez démente, mais lui, il en a encore fait autre chose.
Alors, c'est un gros film d'animation. Cette année, on en a eu deux. On a eu Miraculous, qui est le film le plus cher que le cinéma français ait produit aujourd'hui. Et on a eu Mars Express, donc, qui a fait un peu le tour des festivals avant d'enfin sortir en salle. Et il a eu de très bons retours, parce que les deux œuvres qu'on mélange souvent, c'est Blade Runner et les films d'animation de Satoshi Kon. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'on a un univers SF qui est solide, c'est un film avec beaucoup d'ambition, c'est un réel qui essaye de le rendre le plus logique possible, c'est-à-dire qu'à un moment on a une scène d'accident, il y a des robots qui interviennent, et en fait j'ai vu un interview de Jérémy Perrin qui expliquait que le monde est pour les humains, mais tout est pensé en fait pour avoir les robots qui puissent intervenir sans que ce soit un robot qui gêne la circulation. Enfin, c'est un monde qui est très réfléchi, et je me rends compte que je vous ai pas expliqué de quoi parler le film, donc je vais le faire maintenant. Le film se passe en l'an 2200 avec Alice Ruby, détective privée obstinée, qui est suivie par Carlos Rivera, son partenaire androïde, et tous les deux sont embauchés par un homme d'affaires extrêmement riche afin de capturer sur la planète Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne à la recherche de Jun Cho, une étudiante de cybernétique disparue. Noctis est leur ville. Une utopie libertarienne rendue possible par le progrès en robotique, emblème d'un futur tourné vers les étoiles. Au fil de leur enquête, ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité, ses institutions corrompues, ses trafics, ses fermes cérébrales et les magouilles des tout-puissantes corporations. Mais des tueurs cyber augmentés ont aussi pris pour cible Jun Cho, et Alice et Carlos se lancent dans une course désespérée pour sauver cette jeune femme qui, sans le savoir, détient un secret capable de menacer l'équilibre précaire sur laquelle repose cette civilisation. Alors c'est tout un programme qui est extrêmement mis en avant, comme j'ai dit, par l'animation. Alors il y a beaucoup de thèmes qu'on retrouve à ça, c'est-à-dire l'humain robotique, les humains, comment les humains se confrontent aux robots. Il y a plein de détails donc, qui ont été réfléchis et pensés. Par exemple, Carlos est un robot qui affiche en hologramme un visage d'humain, mais en fait, vu que c'est un robot, lui n'a pas besoin de visage. Et quand on regarde le film, on voit son visage se tourner, sourire, bouger dans les sens. Et en fait, on voit son collier tourner, et c'est son collier qui sert d'œil. Et son collier regarde souvent dans directions différentes. Et c'est extrêmement intéressant parce que tous les robots sont pensés pour plaire indirectement aux humains. C'est-à-dire que Carlos... un visage holographique, c'est un visage qui sourit, qui réagit, qui montre aux humains qu'il est gentil, alors qu'en soi, lui n'en a pas besoin. Alors, Carlos, c'est un androïde parce que c'est un soldat qui a été blessé, dont sa conscience a été injectée dans un robot. Donc, il y a toute une relation au corps et à qui on est une fois qu'on est devenu robotique qui est explorée. Il y a beaucoup de questions, mais le film ne nous perd pas, en fait, parce qu'il se concentre surtout sur son action, sur son univers. Il aborde plein de thématiques qui sont extrêmement intéressantes. On parle de Satoshi Kon, mais c'est aussi parce qu'il y a une réflexion sur ce qui est réel, ce qui est robotique, qui sont aussi des questions qu'on avait dans Blade Runner. C'est extrêmement intéressant. C'est un film qui pose la question de la course au progrès, et en plus, il est sorti en 2003, donc l'année de tout ce qui va être intelligence artificielle au niveau de la voix, au niveau de l'image. Le film a une animation qui est vraiment magnifique, auquel je m'y attendais pas. Il est porté par un casting au doublage qui est très très cool et qui fait super bien son travail. On a Léa Drucker dans le rôle principal, on a Daniel Lobé qui joue Carlo juste à côté, on a Mathieu Amalric qui est présent pour ne citer qu'eux. Après, on retrouve quelques stars du web comme le capitaine du Nexus que j'aime énormément. Donc c'est un film qui est extrêmement cool, extrêmement beau, extrêmement intéressant, et c'est fou de se dire que c'est un film français.
Un film disponible dans une très belle édition chez ESC Vidéo. Vous écoutez Culture Prohibée. Ce n'est pas de l'animation, mais Thomas va nous emmener dans un film, lui, qui est plus fiévreux, qui est aussi, assez singulier, là, pour le coup, qui est l'œuvre d'un cinéaste plasticien, hein, Clément Cogitor, et qui s'appelle Goutte d'or, et qui contient dans son casting l'acteur Karim Leclou, qui est un peu l'acteur de 2023, quoi, qui a littéralement explosé, même si ça fait quelques années qu'on l'a repéré.
Oui, et Karim Leclou qui joue un médium qui est en fait un charlatan qui officie dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Donc il a un petit truc très bien rodé, hein, pour emberlificoter ses clients. Et un jour, ce personnage incarné par Karim Leclou va croiser le chemin de gamins des rues qui viennent de Tanger, hein, des gamins incontrôlables, un peu dangereux. Et là, il va se passer quelque chose. Et ce charlatan va avoir une vraie vision. Donc c'est un film, c'est effectivement un film assez singulier, et je trouve qu'il s'inscrit dans une vague de cinéma français qui flirte avec le fantastique ou la science-fiction, comme celui dont j'ai parlé dans l'émission Palmarès Grand Paris, hein, qui est entre la comédie, le film de banlieue et le film de SF. Et là, on est vraiment dans une veine très réaliste, dans lequel s'insinuent des éléments un peu fantastiques dans la façon dont le réalisateur filme son personnage principal, filme les autres personnages, les gamins des rues, mais aussi la façon dont il filme ce quartier de la Goutte d'Or, où notamment il y a des travaux. Enfin, je ne dévoile pas ce qui s'est réellement passé, parce que c'est... ça fait partie de l'intrigue du film, ce qui concerne sa vision. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant. À partir d'éléments très réalistes, il réussit à créer un climat très fantastique, très, très, presque hors du temps. C'est vraiment ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce film, que je trouve très singulier, l'un des plus singuliers de films français de cette année 2023.
Tu parlais d'un film hors du temps. Je vais parler d'un film qui est également, qui a un côté aussi hors du temps d'ailleurs, qui est un film d'Edouard Salier qui s'appelle Tropique, qui est sorti chez ESC. Hein. Alors, c'est une histoire à la base assez basique, sauf que quand je dis que le film est hors du temps, c'est qu'on ne sait pas vraiment qu'on se déroule cette histoire. Elle se déroule dans une sorte de futur proche, mais qui ressemble vraiment à notre présent. Ça se passe en France, hein, on suppose. Hein. Y a deux jumeaux, Tristan et Lazaro, qui font une école, une école pour les génies. Hein, voilà, hein, ce sont deux gamins très hors normes, hein, c'est aussi bien intellectuellement que physiquement. Et le but, c'est qu'ils arrivent à intégrer l'Agence spatiale européenne. Et de l'espace va tomber une substance là, mystérieuse, qui va contaminer Tristan, qui pourtant paraît le plus fort des deux frères du duo, celui qui domine l'autre et qui domine les autres, qui est sans cesse en compétition d'ailleurs avec un autre élève de l'école qui est comme lui très très fort. Et c'est Tristan qui va se retrouver défiguré et surtout qui va intellectuellement régresser. Et il va perdre ses capacités intellectuelles. Et le meneur devient un peu l'handicapé gênant et comment les deux frères vont cohabiter. Alors c'est un film très particulier qui a un côté organique, déjà parce qu'il est tourné en 16 mm. Hein, et que, comment, il est étonnant dans ce qu'il mélange. Un peu comme quand tu parlais du film de Clément Cogitor, parce que là on est à la fois dans un film de monstre, hein, parce qu'en fin de compte, c'est une version remise au goût du jour du premier Quatermass, hein, une sorte de remake de Quatermass, on va dire, du premier, teinté de préoccupations écologiques de nos sociétés contemporaines, avec un petit aspect Spielberg. On peut difficilement nier la mouche, quoi, quand on voit le maquillage de Tristan. Et le film, là où il est très étonnant, c'est qu'à la fois, donc, on a un film de science-fiction, un film de monstre, et puis un drame familial avec cette mère qui élève seule deux enfants, où on voit leur quotidien, sans que ce soit non plus pesant, hein, mais qui est vraiment quelque chose d'assez particulier. Ce mélange est assez étonnant et évidemment difficile de ne pas penser à La couleur tombée du ciel de Lovecraft, évidemment, qui est une référence de ce film. Hein, et Edouard Salier, c'est un peu qui réalise le film, c'est un peu l'homme à tout faire parce qu'il est aussi co-scénariste du film. Alors, l'idée du film, c'est Mauricio Carrasco qui l'a, hein, qui est à l'origine du projet. Mais la manière dont tout est mélangé, y compris il y a le teen movie, parce qu'à un moment, le garçon qui a été défiguré va se retrouver dans un groupe scolaire qui est un peu l'équivalent de ce qu'on va appeler une classe pour. Ce qu'on pourrait qualifier de SECPA, ou voilà, enfin, en tout cas une classe pour les gamins qui ont du retard dans l'établissement scolaire. Et lui, qui était le leader de cette école, va se retrouver à intégrer cette classe-là avec d'autres gamins qui ont aussi des retards de diverses natures. Et le film est assez fascinant parce que je pense que ça doit se passer à La Réunion ou un truc comme ça. Enfin, le décor est un peu exotique. Et en même temps, c'est rigolo parce que d'impression, le décor est à la fois familier et il nous est un peu étranger. C'est très, très bizarre. C'est très, très bizarre. La photo de Mathieu Plein-Fossé, elle est vraiment très particulière parce qu'elle donne un aspect, ce que disait... Ce qu'il partage avec le film de Cogitor, cet aspect un peu hors du temps, avec des teintes, des couleurs très très étonnantes. Et puis le film aussi a un côté très mélancolique et aidé par la musique de Sébastien, hein, qui vient de chez Headbanger. Mais surtout, il y a un côté très mélancolique qui va se mélanger, se confronter à des accès de violence. Parce que le film aussi comporte des scènes de grande violence. Et en fait, c'est un film, non pas sur le combat entre deux frères, mais le combat contre soi-même, quoi. C'est-à-dire contre la part d'animalité, de monstruosité que l'on a en boucle. Et au final, le film, pour moi, c'est un film qui a vraiment... c'est difficile de décrire la sensation, en fait, au sortir de ce film qui laisse à la fois un goût amer... et l'impression d'avoir assisté à quelque chose de très onirique, un film vraiment très singulier. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial cinéma français. Alors, moins singulier, mais qui fait aussi référence à Lovecraft, je voulais revenir rapidement dessus parce que je voulais un peu défendre deux films là qui se sont fait un peu défoncer par la critique, je trouve, de manière un peu trop virulente, parce qu'ils ont au moins le mérite déjà de ne pas essayer de faire du film à l'américaine, ça je l'ai dit dès le début, parce que ça m'horripile. Là, on s'ancre vraiment dans le territoire français. Alors, c'est un film sorti chez ESC, c'est Gueule Noire de Mathieu Turie. Alors, évidemment, c'est le film le plus faible aujourd'hui dans ceux que l'on évoque, mais ce n'est pas un mauvais film pour autant. C'est une bonne série B, devant laquelle on passe un bon moment. Donc, le French bashing, il y en a marre. Voilà. Donc, non, franchement, c'est un film intéressant.
Moi, je trouve que c'est des trois films de Mathieu Turie, c'est le plus réussi, c'est le plus abouti. Je trouve vraiment ça bien, la façon dont il... Déjà, encore une fois, il est très, très imprégné dans un certain réalisme. Hein. On est dans le nord de la France, dans les mines, au début du XXe siècle. Et finalement, petit à petit, il réussit à bien utiliser ces décors de mines qui deviennent labyrinthiques. On est vraiment dans une ambiance à la Lovecraft, avec une créature à la Lovecraft. Moi, je trouve que c'est son film le plus réussi de ces trois longs métrages.
Alors, c'est un film qui raconte, ça se passe peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, hein, et qui raconte comment une équipe menée par Samuel Le Bihan, qui est plutôt pas mal dans le film d'ailleurs, emmène un scientifique, hein, Jean-Hugues Anglade. Alors, il y a plein de références à Lovecraft, puisqu'à un moment, le scientifique, il cite Abdul Al-Azred, qui est l'auteur du Necronomicon. Voilà. Donc, il y a plein. Et puis, ils vont emmener ce scientifique dans les profondeurs. Et évidemment, ils vont tomber sur une étrange crypte, un monstre. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien dans le film de Mathieu Turie, c'est que, en fait, il utilise bien le fait qu'il ait peu de budget. On sent bien que c'est pas un gros budget, mais il utilise très bien le hors-champ. C'est quand même un décor presque unique, donc il y a quand même de la maîtrise dans la mise en scène. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait un contraste, en fait, entre la caméra portée dans les souterrains et l'ampleur des plans à l'extérieur, dès qu'on est en extérieur. Du coup, on est complètement enfermé, on a un sentiment de claustrophobie dès qu'on est dans les souterrains. Donc en fait, moi je trouve que malgré quelques défauts, on sent bien que le metteur en scène est très à l'aise lorsqu'il s'agit de faire flipper son auditoire. Hein. Le côté dialogue ou de dissertation sur des sujets de société et tout, tel l'héritage du colonialisme, du racisme. Bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi dans le film, j'ai envie de dire. Mais même si le film peut avoir un petit côté bancal, moi, pour moi, c'est une très bonne série B. Lovecraftienne en diable est bien meilleure que sa réputation. Donc, on vous encourage aussi à voir Gueule Noire de Mathieu Turie, qui est également disponible chez ESC. Et je vais terminer dans ma défense des Cause perdue, moi, avec Vermine. Alors, Vermine qui n'a pas été non plus très épargné par la critique, de Sébastien Vanitschek. Pareil, comme le film de Mathieu Turie, c'est un film qui n'est pas sans défaut. C'est vrai, il faut le reconnaître, il faut être honnête. Hein. Le film, en fait, raconte quoi ? C'est l'histoire d'un gamin de cité qui vit de trafic de basket, et qui se retrouve... aussi à collectionner les animaux. Son rêve, c'est d'avoir un vivarium, en fait, avec un copain qui est campé par Finnegan Oldfield. Le héros, c'est Théo Christine, hein, qui avait interprété Joey Starr jeune. Ils sont brouillés, on découvrira pourquoi dans le film. Et Théo Christine, lui, dans la cité, il est un peu atypique. C'est ce gamin qui est un peu le grand fournisseur de baskets de tout le monde. Et puis surtout, qui continue de collectionner des animaux comme ça, des insectes, un peu des créatures dont personne ne veut. Et il se trouve qu'il va ramener le mal dans son immeuble, dans sa cité, et en l'occurrence, une araignée très particulière, très agressive, et qui en plus n'a cesse de grossir pour devenir énorme. Donc on se retrouve dans un pitch de série B façon années 50, avec des araignées géantes qui attaquent les humains, et comment sur un scénario
quand même, qui est coécrit par l'auteur de La Flamme, du Flambeau, de Bloqué. Donc c'est quand même assez étonnant de retrouver ce scénariste là dans un pour comment dire illustrer un film d'horreur. Et le film, pour moi, évidemment, le titre est à double tranchant parce que qui est la vermine ? Est-ce que c'est ce gamin, un peu sale gamin, mais qu'on aime bien quand même, qui amène la bête et qui quand même va décimer une grande partie de son propre immeuble, hein ? Ou est-ce que ce sont les flics qui vont intervenir et qui vont traiter ces êtres humains pire que avec beaucoup moins de respect que ce garçon traite les insectes ? Voilà. Donc évidemment, le titre du film, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est la polysémie du titre, elle vient de là. Mais moi, ce que je trouve, le film, en fait, déjà, j'adore le décor. C'est filmé dans la Cité des Arènes Picasso à Noisy-le-Grand. Sébastien Vanichek, il a grandi dans cette cité. Et l'immeuble est très particulier. Très particulier et particulièrement bien mis en scène. Il a des formes singulières d'un point de vue géométrique qui utilisent les cercles, la rondeur. Qui contraste avec le côté très rectangulaire, cubique, qu'on voit habituellement dans les cités HLM. Donc c'est très original. Pour moi, il y a une intro qui est très efficace, qui se passe au Maroc, de la chasse aux araignées, voilà, qui est très, très, très impressionnante. Et pour moi, le film est ponctué de deux séquences surtout qui sont assez extraordinaires en termes de mise en scène, parce qu'en fait, les araignées réagissent plus ou moins bien selon le fait que la lumière est allumée ou éteinte. Voilà. Donc, en gros, dans un cas, il se déplace, dans l'autre cas, il ne bouge pas. Voilà. Et évidemment, il faut que tous nos héros traversent un par un couloir infesté d'araignées avec une minuterie qui déconne. Voilà. Donc, ça donne une séquence, alors là, en termes de mise en scène, vraiment bluffante. J'étais scotché à mon fauteuil. Et juste après, il faut qu'ils prennent un ascenseur et rebelote parce que dans l'ascenseur, bah voilà, il n'y a pas que des copines. Voilà, c'est pareil. Hein, avec bien sûr, en plus, on pointe des trucs qui existent dans la réalité. C'est-à-dire des ascenseurs toujours en panne, la minuterie qui déconne. Enfin voilà, le quotidien de plein de gens qui vivent dans des cités mal entretenues. Et moi, là où je trouve que le film est moins réussi, c'est quand il joue dans le registre de l'émotion. Voilà, là, je trouve que les scènes... où on est plus dans le registre de l'émotion, viennent un peu comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'aurais préféré que le film reste tout du long, tendu comme l'élastique d'un slip, comme dirait l'autre. C'est-à-dire qu'on reste dans ces séquences de tension que Vanichek arrive à mettre en place, telles que cette séquence de traversée de couloir, telles que cette séquence d'ascenseur, et aussi cette séquence d'assaut au sous-sol, voilà, où il faut sortir du garage. Enfin bon, voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Je ne vais pas vous déflorer toute l'intrigue du film. Ça s'appelle Vermine, c'est signé Sébastien Vanichek et c'est disponible chez ESC.
J'ajouterai un petit détail, Jérôme, qui est que tu n'es pas le seul à avoir été impressionné par ce film parce qu'il y a un certain réalisateur qui a contacté l'équipe du film Vermine pour réaliser un spin-off d'une saga. C'est Sam Raimi.
Écoutez Culture Prohibée. Thomas, tout à l'heure, tu nous as parlé d'un film avec Karim Leclou, un film de Clément Cogitor qui s'appelle Goutte d'or. Il se trouve que Karim Leclou est également à l'affiche d'un autre film, d'un premier film d'ailleurs, hein, qui sort chez Capricci, et qui s'appelle Vincent doit mourir.
Je reste dans la même veine, hein. Un autre film avec Karim Leclou. Et encore un film où, qui est très réaliste, où le fantastique s'insinue comme ça, de façon très diffuse, dans un univers très, très réaliste. Donc, Karim Leclou joue Vincent, hein, qui travaille dans une agence de publicité ou de graphisme, un truc comme ça, et qui, du jour au lendemain, est agressé par n'importe qui, dans la rue, comme ça, au bureau, par une femme qui le regarde au feu rouge, qui est en voiture, et qui le poursuit, alors que lui, il est à vélo, et par un stagiaire qui le frappe à coups d'ordinateur portable. Et il va finir par fuir la civilisation, parce que même ses voisins l'attaquent, enfin, les enfants de ses voisins l'attaquent dans les couloirs, quand il rentre chez lui, tranquille. Et il va finir par fuir la civilisation et s'isoler à la campagne, dans la maison de son père, pour pouvoir éviter d'être attaqué tout le temps. Et il va découvrir qu'en fait, il n'est pas le seul à subir des attaques gratuites où des gens veulent carrément le tuer, en fait. Hein. À un moment, il y a une scène incroyable où le facteur vient lui apporter son courrier et le facteur veut le tuer. Et puis, ils se battent dans la boue. C'est vraiment horrible. Et en fait, finalement, Vincent doit mourir. C'est aussi un film... Alors, je vais citer Antonioni, hein, sur l'incommunicabilité. sur l'incommunicabilité, sur le fait que les gens s'isolent de plus en plus sur des sociétés où on ne se parle plus, finalement, et où tout devient agression, en fait. Les gens ne se comprennent plus. Et c'est aussi un film sur l'isolement, sur la solitude, car finalement, ce personnage... Bah, il n'a plus de contact avec la civilisation autrement que par les réseaux sociaux et encore, autrement que sur un site où se retrouvent toutes ces personnes qui se nomment les Sentinelles et qui sont toutes victimes d'attaques gratuites comme ça, de leurs voisins, d'inconnus dans la rue, etc. Et qui s'isolent et qui essayent de s'organiser de façon à survivre. Et en fait, au fur et à mesure, cette violence va prendre des proportions incroyables vu que à la fin, c'est carrément des scènes d'apocalypse que le réalisateur filme. En plus, pour ne rien gâcher, il y a Vima Laponce dedans, hein, qui est une excellente actrice que personnellement j'apprécie beaucoup. Et donc, je recommande vivement Vincent doit mourir, une tentative de film fantastique à la française et qui ne, comme tu l'as dit, Gégé, plutôt, qui ne cherche pas à copier les Américains.
On est pris par le temps, parce que moi, je voulais vous parler un peu du règne animal de Thomas Caillé, qui est un de mes films préférés de l'année 2023, qui est un film que j'ai adoré, qui a réussi presque à me donner envie d'écouter du Pierre Bachelet, c'est dire, hein, quand même. Hein. D'ailleurs, c'est un peu le truc, hein, les chansons un peu ringardes, il y en a une aussi dans Vincent doit mourir, hein, qui reviennent en leitmotiv, faut croire que c'est générationnel, voilà. Et il y en a une aussi, d'ailleurs, dans le film, un des films dont je voulais parler aussi, d'une réalisatrice que j'adore et dont on parle jamais, donc faudra qu'un jour on lui consacre une émission, et peut-être même qu'on arrive à l'interviewer, parce que ce serait chouette, c'est Léa Missus aussi, hein, dans Les Cinq Diables, il y a aussi une chanson, elle n'est pas française, mais une chanson de pop qui revient des années 80. Alors, Le règne animal de Thomas Caillé, bon ben voilà, on n'a pas le temps d'en parler, mais je voulais vous le conseiller quand même vivement, parce que là, je trouve aussi que c'est un bel exemple de mixte réussi entre un film purement français, quoi, franco-français, et du fantastique, mais en plus un fantastique un peu comme ça, presque poétique, très touchant, mais aussi, voilà. En tout cas, quand j'ai vu Le règne animal en salle, j'ai oublié que j'étais dans une salle de cinéma, ce qui est déjà un exploit. Et puis, Léa Missus, on en reparlera, hein, mais je sais que Thomas aime bien aussi le travail de Léa Missus, c'est une réalisatrice qu'on a très très envie de suivre. Et on en parlera parce qu'après un premier film fantastique qui s'appelait Ava, fantastique dans tous les sens du terme, épatant si vous voulez, avec une petite teinte de fantastique, le cinéma charnel, sensuel, un peu onirique comme ça de Léa Missus va atteindre des sommets dans Les Cinq Diables, son film d'après, qui est un film très complexe dans la narration avec des allers-retours passés, présent des personnages qui surgissent, comment dire, qui viennent du futur, dans le présent. Enfin voilà, c'est un film assez complexe et qui est, comment dire, qui nous rappelle en tout cas que si les femmes sont des sorcières, c'est pour ça qu'il ne faut pas les brûler. Puis c'est également pour ça que son cinéma, il a un côté justement très incandescent, très puissant. Elle a foi dans le cinéma et ça, ça fait très plaisir. Moi, je trouve que c'est assez époustouflant ce qu'elle fait. Donc, on en reparlera dans l'émission, d'autant plus que Léa Missius, elle travaille sur un film qu'on devrait voir en 2024, normalement, si tout se passe bien, qui est une adaptation d'Histoire de la nuit, un livre de Laurent Mauvignier. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin, qui est un livre, bien étrange, avec une écriture bien, bien étrange. Bon, il faut accrocher parce que ça fait plus de 600 pages. Et un roman assez polyphonique qui pourrait, par un mauvais réalisateur, donner un Home Invasion, mais là, ça va donner autre chose, j'en suis sûr, avec Léa Missius. Et du coup, on est très impatients. Elle dit qu'elle est en train de faire son History of Violence à elle, au féminin. Donc, on a très, très envie de voir ça. On va terminer avec Bertrand Mandicot. Alors, je vous disais, Bertrand Mandicot, nous, ça fait des années qu'on le suit. On avait beaucoup aimé Les Garçons Sauvages. On avait vu After Blue Paradisal. On vous avait parlé de ses courts-métrages. Il était venu dans l'émission. Il se trouve que là, c'est pareil, dans le genre cinéaste français, singulier, avec un univers bien à lui. On n'a pas parlé de Quentin Dupieux aussi, parce que lui, il commence à être là depuis tellement longtemps. Voilà. Il y a fatalement... Bertrand Mandicot et son Conan CONA2N, qui n'a rien à voir avec le film de John Milius, hein. Relecture féminine de l'œuvre de Robert E. Howard avec Conan à différentes époques de sa vie, interprété par 6 actrices différentes, voilà, est un film totalement hors norme, impossible à résumer de toute façon, qui est un voilage sensoriel, qui est un trip assez hallucinant. Et qui, dans son casting, a 2 actrices, Sandra Parfait et Nathalie Richard. 2 actrices que nous sommes donc allées rencontrer, donc Sandra Parfait et Nathalie Richard, au micro de Culture Prohibée.
Mais qui voici ?
Vous ne connaissez pas Conan ?
Je voulais vivre pour me venger.
Salut Conan, tu sais qui je suis ?
Non.
Je suis toi.
Je suis toi dans 10 ans, Conan.
Changer d'époque ? Changer de vie ?
Et sa propre jeunesse est le comble de la barbarie.
À part ma vengeance, je n'avais aucune perspective.
J'aurais tout fait pour remonter le temps et prendre un autre chemin.
Si l'amour est brutal avec vous, soyez brutal avec lui. Tu as des regrets ?
Un océan de regrets. Pour ma part, la première approche du
Sandra,
du
parfait
tournage et même du travail de Bertrand, c'est quand même que de sentir cet amour et ce respect des actrices. Et donc la proposition qui est faite de base, qui est donc ultra riche, puisque c'est clairement des rôles qu'on n'a pas l'habitude de voir, et donc a fortiori de proposer à des comédiennes. Et donc, il y a pour moi cette notion de cadeau. Quand j'ai appréhendé le rôle et le tournage, c'était une grande respiration. Et vraiment, cette notion de cadeau, où là, il y avait une proposition très forte et il y avait juste à y aller. Et c'est ce qui s'est passé pour le tournage. C'est on y va, on joue des choses qui sont très fortes avec des enjeux très hauts. Et en fait, je pense qu'il y a toute cette notion-là d'envie, c'est même pas de casser des codes, parce qu'au stade de Bertrand, on n'est plus à casser des codes, là, on est vraiment dans son monde, son univers, qui est plus tellement dans une dualité. Donc c'est pour ça que je parlerai pas de casser des codes, mais en tout cas, c'est ouais. Pour moi, c'est comme ça que j'ai envisagé. C'est vraiment un cadeau, quelque chose de très riche, où le contrat, c'était juste la proposition est là, il n'y a plus qu'à y aller, vraiment. Et donc, effectivement, ensuite, quand on arrive, on est sur quand même un tournage avec des décors grandioses, des costumes, des maquillages incroyables. Donc là, on se retrouve à jouer des choses qui, de toute façon, nous dépassent et sont fantastiques. Donc il faut, je pense, après, en termes d'ambition, de jeu et d'envie, être juste à la hauteur, en fait, de ces personnages qui sont si beaux et si bien écrits, et cet univers qui est si riche, encore une fois. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu.
Oui, sur les corps, c'est vrai que ce qu'il y a avec Bertrand, bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un café qu'on est en train de discuter. Quoi.
Nathalie Richard.
C'est-à-dire si on m'a trompé ou si je vais tromper mon mari, combien d'enfants je vais avoir. Et puis... Non, mais c'est vrai. Donc ça déplace quand même la discussion, bien que nous parlions d'amour, de haine, de vengeance, de désir, voilà, de sexualité, de tout ça, mais pas par... Par un autre biais, disons, on prend la tangente. Poétique, en tous les cas, sûrement. Mais c'est vrai qu'avec Bertrand, par exemple, c'est toujours physique, c'est performatif, parce que c'est des heures, on passe des journées de 10 à 15 heures, pas forcément dans on a froid, on a mal aux pieds, on a tous ces trucs-là. Et donc, il faut vraiment être en forme physique et armé, et c'est sûr que le soutien que nous donne Bertrand, c'est-à-dire que quand même, on est sublimement bien filmé, quoi qu'il arrive, vraiment. Et pas seulement ça, c'est-à-dire qu'on est bien filmé aussi, c'est-à-dire qu'il montre des corps nus, hein, quand même, et bien en étant nu avec Bertrand, on est super habillé. C'est vrai, ça m'est arrivé dans certains films de Bertrand, mais ça vous donne une puissance d'être là, en tous les cas, mais parce qu'on sait qu'on est protégé et qu'on est super bien filmé, quoi. Il n'y a pas un plan dans le film, qu'on aime le film ou pas d'ailleurs, où il n'y a pas de la beauté, quoi. Et de la délicatesse. Voilà. Et bien ça, c'est super rare, parce qu'on peut être faire une scène tout dans un café, waouh. Des fois, c'est moche. Donc c'est vrai qu'après, puis le texte aussi dans les films de Bertrand a évolué, je pense qu'il va évoluer de plus en plus. Mais on est dans ce qu'il nous demande, il s'en demande beaucoup, il nous en demande beaucoup, mais on est vraiment soutenu. Et c'est l'immense, immense différence. Et de ça aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de burlesque, je trouve, dans son film, il y a quand même il y a de la distance, hein, humoristique, donc c'est vrai qu'on se marre. Quand même, on se marre beaucoup, quoi. En se disant, là, on n'en fait plus, vraiment, qu'est-ce qu'on fait. Enfin bon, donc il y a tout ce jeu, c'est ludique, c'est profondément ludique. Donc ça, c'est d'une force incroyable dans l'histoire de la représentation du cinéma. Voilà.
Pour moi, dans Conan, on explore, et c'était vraiment bienvenu et frais pour le coup, on explore la violence féminine, si tant est qu'il y ait une violence féminine, plutôt des violences féminines. Et je pense que, moi, c'est vrai qu'en tant que spectatrice, je ne l'avais pas encore vu. Donc, à fortiori, en tant qu'actrice, j'avais envie de l'explorer, d'aller voir un petit peu. Elle prend plusieurs formes différentes, à l'évidence, mais ouais, il y avait tant de choses à en dire, et sans entrer dans le cliché, aborder par tous ces fragments de vie, tous ces âges, quelle forme ça prend, comment ça s'exprime. C'était aussi un... Ben, c'est une promesse qui était très alléchante, en fait. Et même si, pour le coup, moi, c'est pas ce que j'ai vu en premier, j'ai vu vraiment la grandeur du personnage. Là, on reprenait quand même Conan. Là, on devenait Conan, mais en explorant bien plus de choses que ce qu'on aurait pu attendre de base. Mais ces choses-là sont arrivées pour moi même plus à la suite, de dire « Waouh, c'est super intéressant, en fait, les endroits dans lesquels on va. » Et de voir derrière, parce que lire le scénario, c'est une chose, voir le film pour la première fois projeté, là, moi, je me prends une claque, je me dis, waouh, on a été dans tous ces endroits, tout ensemble, c'est assez génial, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu de cette façon, donc, ouais.
Vous écoutez Sandra Parfait et Nathalie Richard, deux des actrices du Conan de Bertrand Mandicot, au micro de Culture Prohibée.
Il y a une partie des décors qu'on connaissait plus ou moins parce qu'ils avaient été importés du théâtre des Amandiers, dans lequel on avait commencé un peu les projets Conan. Parce que je ne sais pas si vous savez, il y a eu des courts-métrages qui ont été tournés en attendant Conan au théâtre des Amandiers. Et c'était vraiment des projets satellites, des petits courts-métrages, des moyens-métrages qui sont projetés dans certaines salles. Et donc il y a certains décors qu'on connaissait qui ont été importés, des ponts entre le Conan le Long que vous venez de voir et d'autres projets. Et en fait, pour moi, parce que Nathalie n'était pas avec nous, nous avons dit, pour moi, c'était retrouver, sur Conan le Long, c'était retrouver un univers que j'ai connu pour la première fois en début d'année. On a tourné Conan à l'hiver 2021, et fin d'année 2021, et on a tourné les courts-métrages en début d'année 2021. Donc, moi, j'ai connu Bertrand et son travail vraiment en mars, février-mars. Et c'est la première fois, là, pour le coup, que j'ai vu comment il travaillait, dans quelle économie aussi, dans quel décor. Et c'est vrai que d'arriver dans des décors pareils, donc il faut imaginer le théâtre des Amandiers avec ses figures grandioses, donc les jambes, les pierres, assez incroyables, vraiment un cirque en fait. Hein, il a figuré un cirque immense, grandiose pour le coup, c'est le mot. Il y a toute une ambiance autour de ça, il y a toute une énergie et tout un tas d'artistes aussi qui convergent vers une même envie, un même but. Et ben, pour moi, ça a vraiment été une expérience ultime en tant qu'actrice. C'est-à-dire, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis, c'est pour moi, c'est la petite fille qui accède à son rêve, en fait, de personnages et d'ambiances tellement peu communs, mais en même temps qui font tellement rêver, où là, il y a vraiment juste littéralement plus qu'à plonger et à s'immerger dans cet univers. Avec, en plus, on est aidé, parce qu'on a des, je le répète, on a des costumes incroyables qui nous font, en fait, naturellement aller dans un endroit un peu commun, mais c'est là qu'en fait, on se reconnecte avec le pourquoi on fait ce métier. En tout cas, pour ma part, et c'était ça. C'était, tout était grand, tout était fascinant et tellement différent de ce que j'avais l'habitude de faire par ailleurs. Et donc, retourner sur Conan le Long, c'est reproduire cette expérience-là. Waouh ! Là, je sais que je vais retrouver un plateau incroyable, avec des choses à dire, des enjeux qui sont très grands aussi. Donc, c'est comment dire ? Une espèce d'humilité. Et en même temps, une envie d'y aller, quoi, de dire des choses qui sont assez grandes. Moi, quand le tournage est terminé de Conan, qui a duré, pour moi, je crois, 2-3 semaines, je ne sais plus, en condensé, j'avais vraiment le sentiment de m'être libérée d'une chose qui devait sortir, parce que je suis restée un an entre le casting et le tournage, il s'est passé un an, et c'était un personnage qui m'obsédait vraiment, Conan 35. Et du moment où j'ai pu tout lâcher sur le plateau avec tout ce que ça impliquait, ben, voilà, j'ai fini avec le sentiment du devoir accompli et c'est quelque chose qui est quand même, en tout cas pour moi, au stade de ma carrière, pas si commun que ça. Donc ouais, ça, pour moi ça implique tout ça, les décors, les costumes, machin, c'est rêve de gosse quoi. Malgré la dureté des fois des choses qu'on peut dire, mais ça fait pas tellement de différence pour moi.
Alors le décor, il faut dire que le décor en lui-même, c'est-à-dire l'espace cinématographique, c'est la plus grande usine sidérurgique qui a existé au Luxembourg, en sachant que c'était un des grands lieux d'aciérie et tout ça, en dehors de la Lorraine et du parti d'Est de la France. Donc ça veut dire que c'est un endroit qui se trouve à côté de la ville, la capitale Luxembourg, qui s'appelle Esch-sur-Alzette. Et c'est à peu près, je ne sais plus combien de milliers de kilomètres carrés. C'est-à-dire qu'on fait le tour de cette usine qui, évidemment, puisque la sidérurgie s'est effondrée, la métallurgie s'est effondrée il y a quelques décennies, est resté en fait un lieu totalement à l'abandon. Et ce lieu consiste avec, il restait donc tous les bureaux des contremaîtres, des directeurs, les endroits pour les ouvriers, où ils rangeaient leurs vêtements, où ils allaient se laver. Donc vous avez des endroits où il y a les lavabos, c'est là où ils se lavaient. Et après, tous les autres trucs où l'acier était travaillé, les hauts fourneaux et tout ça. Et dans d'ailleurs une partie de l'autre côté d'Esch-sur-Alzette, où ils ont gardé, il y a tout un musée sur la sidérurgie, la métallurgie, et dans la ville elle-même, il reste les trames de chemin de fer où on amenait, enfin, tout ça. Donc c'est vraiment, c'était un lieu, ce qui était assez étonnant, c'était que c'était un lieu de travail totalement à l'abandon, et on pouvait sentir tous ces gens qui avaient travaillé, et toute une histoire du capital aussi, évidemment, et du monde ouvrier. C'est-à-dire qu'il restait, même enfin Bertrand, il disait quand ils avaient des coups, enfin, parce qu'ils tournent pas mal dans cet endroit, parce qu'on peut faire plein de trucs là-dedans, il restait même dans les bureaux des dossiers, des trucs éparpillés, enfin vraiment, quoi, un monde du travail laissé à l'abandon. Et après, là-dedans, il y a eu la bagnole, il y a eu tous les trucs et tout ça, mais donc le lieu, donc on tournait dans ces différents hangars, surtout dans les hangars, un petit peu peut-être à l'extérieur, mais voilà. Mais donc c'était un endroit effectivement de la vie qu'il avait dû avoir avant, qui était assez impressionnant, quand on tournait la nuit en plus. Et c'est pour ça que Bertrand a tourné avec une grue, parce que sinon ça aurait été trop compliqué. Donc ça permettait de faire des zooms, ça permettait d'aller en hauteur, de faire des travelling avec la grue et tout ça, parce que les lieux étaient immenses. Donc évidemment, barré de courant d'air, de tout, la poussière, il restait, des morceaux de ferraille, enfin tout. C'était un domaine de ruines et de vestiges, en fait, hein, de toute une économie industrielle qui n'existe plus. Donc ça c'était assez impressionnant. Mais ça fait partie, même il dit à un moment donné, toute cette histoire de métal fait partie aussi de l'histoire de Conan, en fait. Hein, les épées, les glaives, tout ça. Mais bon, après Bertrand, il tourne dans Afterloo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, il devait tourner dans le Limousin. Après, ils ont tourné plus dans le bas, vers les Pyrénées. Là, c'était des décors de nature absolument incroyables. Ou après, il a pile aussi, ou dans Notre-Dame des Hormones, on tournait dans les forêts. Et là, il y avait des diamants d'un côté, des trucs, on peignait les arbres, machin, des fesses qui sortent des arbres. Enfin, bon, tout est, à chaque endroit devient un lieu un peu comme... bénéfique, maléfique, comme dans un conte de fées. Donc c'est vrai que les lieux sont souvent et redécorés, remaniés, retransformés, sont toujours des lieux quand même assez particuliers. Et là, dernièrement, on a tourné avec Bertrand, par exemple, à Francfort, dans un ancien commissariat de police qui fait pas mal de mètres carrés, avec des colonnes de marbre, des vitraux... Et on devait tourner, heureusement, il a dit, oh non, là, c'est quand même un peu dans les sous-sols, tout était carrelé avec des frigidaires, des trucs, donc je pense que pendant la guerre, ça devait pas être rigolo. Après-guerre aussi, avec le communisme, ça devait pas être rigolo non plus. Heureusement, on a tourné un peu au-dessus, et ce truc va être détruit, mais c'était un endroit, et qui devait aussi un endroit de justice, donc il devait tout mélanger en même temps, quand même. Donc, bien souvent, on se retrouve dans ces endroits, c'est pour ça qu'aussi physiquement, c'est dur. Parce que c'est des endroits laissés à l'abandon, mais qui trimballent toute une histoire, quoi, et que ça se sent dans les murs, en fait. Et donc on travaille avec ça aussi.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Fuck you, bitch. Yes, fuck off, bitch.